évoquez avec un certain nombre de maires la question de la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010. Cette loi porte réforme de la gouvernance des collectivités territoriales. Elle a été voulue d'abord par le président du Sénat, paradoxalement, et le président de la République. Ce n'est pas qu'on fasse concurrence entre les deux, mais quand j'ai été élu, il y a bientôt 3 ans, président du Sénat, et dans mon élection, qui n'était pas par vos confrères la plus attendue au moment où j'étais élu, il faut bien dire, dans mon premier discours officiel, j'ai proposé à mes collègues, qui l'ont fait très vite, de mettre en place une mission d'ailleurs transpolitique, comme toujours au Sénat, de 36 sénateurs qui réfléchissaient à la gouvernance des collectivités territoriales et à sa réforme. Et d'ailleurs, nous étions venus ici même, au printemps de l'année 2009, y compris pour une émission qui était en direct avec Public Sénat. Et aujourd'hui, avec les maires, et hier soir, j'ai voulu échanger, notamment sur un volet qui fait l'objet d'un dialogue entre M. le préfet, représentant l'État, et les commissions départementales, la commission départementale de coopération intercommunale de l'Occitanie, formée de 44 membres, issus d'une liste unique, représentant les grandes communes, les moins importantes communes, les élus de toute sensibilité, 40% issus du collège des maires, 40% issus du collège de l'intercommunalité, 10% du conseil général, 5% du conseil régional, 5% des autres intercommunalités. Et je voulais dire aux maires, à la fois que ce texte, pour la partie intercommunalité, autant la partie conseiller territorial fait débat entre majorité et opposition, elle a d'ailleurs fait débat à l'intérieur de la majorité et de l'opposition, autant sur l'intercommunalité, le rapport qu'on appelle Belot, puisque c'était le président de la mission du Sénat, il a fait convergence et consensus. L'idée, c'est ça, on achève 12 ans après la loi Chevènement. On achève la loi Chevènement et aucune commune n'est en dehors d'une intercommunalité à caractère communautaire. C'est-à-dire communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, c'est pas un problème des Hautes-Pyrénées. Et donc, à partir de ça, j'ai expliqué qu'il y avait un temps particulièrement utile de dialogue, mais que le principe numéro un qui avait été dans la loi, c'est que nous ne croyons pas, et nous n'avons pas voulu, et c'est une volonté du Sénat, d'ailleurs, que nous avons fait partager aux députés, c'est d'abord que la commune qui reste la cellule de base de la démocratie locale. Ça, c'est vrai. Et il n'est que voir l'échec de la loi Marcellin de 71 pour comprendre que toute fusion autoritaire entraînait des diffusions sauf dans 2 départements parmi lesquels la Haute-Marne. Mais pour des raisons qui étaient liées à la Première Guerre mondiale, puisque la Haute-Marne était tellement ravagée, il n'y avait aucune commune, il y avait des communes qui n'avaient plus d'habitants. Et donc cette histoire, elle est bien spécifique. Alors, premier principe. Deuxième principe, l'intercommunalité à construire doit prendre en compte les intercommunalités existantes, je parle des communautés, mais l'esprit du législateur, c'est quel bassin de vie, quelle cohérence économique, géographique. Et que maintenant, et j'insiste bien, c'est pas une idée moderne, même si les communes nous apparaissent démographiquement très faibles, parce qu'on voit bien, tant qu'il reste un conseil municipal dans une commune, il y a une capacité à réagir, capacité à agir. C'est particulièrement vrai dans un département comme les Hautes-Pyrénées qui, à lui seul, représente 10% des communes de moins de 100 habitants en France. Et oui, donc c'est pas rien. Et donc ici, particulièrement, je me fais un défenseur de la commune. Et par contre, la volonté du législateur, c'est aussi l'efficacité territoriale, l'efficacité de la dépense publique. D'où l'organisation en communauté, et d'où, ça prendra plus de temps, la simplification de la multiplication qu'on a eue, l'intercommunalité, syndicat à vocation unique, syndicat à vocation multiple, etc. Et donc, je crois que ce dialogue que j'ai eu avec les maires, il visait à bien leur rappeler ces principes et leur dire, utilisez jusqu'au 31 décembre le dialogue avec le préfet, et il y a une circulaire du 22 avril qui rappelle bien les conditions de ce dialogue, qui a été adressée à chaque préfet par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Collectivités territoriales. sénatorial, qui dit que je suis ici, alors, sénateur, c'est pas inutile. Et auquel je dois vous avouer, j'ai mis un peu la main, même s'il y a la séparation entre l'exécutif et le législatif. Parce que nous croyons profondément qu'il ne faut pas avoir, pardonnez-moi monsieur le maire, je sais que vous ne l'avez pas, il n'y a pas qu'une vision urbaine de la France. Il y a besoin de points d'appui qui s'appellent les villes, les petites villes-centres, les bourgs-centres, mais il y a une France faite comme une rurale, qui sont la richesse de la France. Et la réponse intercommunale, jusqu'au 31 décembre, un dialogue. Et puis après le 31 décembre de cette année, je crois que tous les maires ne l'avaient pas ressenti. Il y a un dialogue qui va se poursuivre jusqu'au 1er juin 2013 dans la commission pour examiner les statuts, la représentativité des communes et éventuellement les éléments du schéma qui n'iraient pas, puisque le préfet, comme 20% du membre la commission, peut saisir une question. Cette question sera résolue par la commission. Et moi, mon rôle, avec la délégation collectivité territoriale du Sénat, c'est que la loi, c'est notre fonction de contrôle, soit appliquée dans le respect de la lettre, mais aussi de l'esprit et de la volonté du législateur. Ce que j'ai fait hier soir à l'invitation de la Fenech, je l'ai fait en France, je l'ai fait dans l'Yonne, et c'est pas un département tout là. Vous voyez que cette semaine, à l'invitation de l'Université des maires de ce département, je l'ai fait déjà dans 90 départements. Mon 94e déplacement depuis janvier 2009. Mais, alors, on a ici à traiter, comme dans la Drôme et le Vaucluse, un problème. Qui est le problème des enclaves historiques. Qui concerne, si ma mémoire est exacte, trois communes de votre département, monsieur le préfet, qui sont sous votre autorité régalienne, en tant que successeur et représentant du roi de France, puis de la République sur ce territoire, qui sont. Mais c'est vrai. Oui, là, c'est pas pour faire chose. Après, il y a eu la restauration. Et qui sont dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et j'ai la même chose dans le Drôme et le Vaucluse. Notamment là, lié à un pape. C'est les anciens états du pape, entre Drôme et Vaucluse, à Ville. Et il est vrai que le législateur, je le dis, n'a pas pris en compte, mais je crois que le sujet n'avait pas été abordé au moment de la. Donc, hier soir, j'ai rencontré deux des trois maires concernés qui m'ont soumis cette question d'une manière d'ailleurs ouverte et positive et que je vais remporter avec moi, mais je dois tout vous avouer, c'est que mes collègues du Vaucluse m'avaient saisi de la question et des enclaves de cet état avec aussi. Nous verrons quelle est la réponse. Aujourd'hui, en termes de la loi, le préfet ne peut faire que ce qu'il a fait. C'est le respect de la loi. Et donc, ça, je le dis. Par contre, le législateur peut toujours examiner un certain nombre de choses. En tous les cas, c'est fait aussi pour qu'on dialogue et qu'on se rencontre avec les maires.